Chapitre 12. Journal du docteur Seward. 18 septembre.
J'ai pris la route immédiatement pour Hillingham et suis arrivé tôt. Laissant ma voiture et mon chauffeur à la grille, j'ai remonté seul l'allée qui mène à la maison. J'ai frappé doucement et sonné en faisant le moins de bruit possible, car j'avais peur de déranger Lucie ou sa mère. J'espérais alerter un simple domestique. Après un moment, comme personne ne venait m'ouvrir, je frappai et sonnai à nouveau, toujours aucune réponse. Je maudis la paresse des servantes, qui n'auraient pas dû être couchées à une heure pareille, car il était maintenant 10 heures du matin. Et je sonnai et frappai à nouveau, de plus en plus impatiemment, mais toujours sans réponse. Jusque-là, je n'avais fait que blâmer les domestiques, mais maintenant une peur terrible m'assaillait. La désolation de cette maison n'était-elle pas un nouveau maillon de cette chaîne maudite qui semblait se resserrer autour de nous? N'était-ce pas une maison de mort à laquelle je me présentais trop tard? Je savais que les minutes et même les secondes de retard pouvaient signifier des heures de danger pour Lucie si elle avait eu l'une de ces effrayantes rechutes. Et je fis le tour de la maison pour voir si je pouvais par hasard entrer par un autre côté. Je ne trouvai hélas aucune ouverture. Chaque fenêtre et chaque porte étaient soigneusement fermées et verrouillées, et je revins bredouille au porche. Alors que je m'en revenais, j'entendis le martèlement des sabots d'un cheval mené à vive allure. Le cheval s'arrêta à la grille, et quelques secondes plus tard, je vis Van Helsing qui déboulait par l'allée. Quand il me vit, il s'exclama « C'est donc vous qui venez juste d'arriver ? Comment va-t-elle ? Arrivons-nous trop tard ? N'avez-vous pas reçu mon télégramme ?» Je répondis aussi vite et aussi distinctement que possible que je n'avais reçu son télégramme que tôt ce matin, que je n'avais pas perdu une minute avant de me ruer ici, mais que je ne parvenais pas à me faire entendre des gens de la maison. Il s'arrêta, ôta son chapeau et dit d'un air solennel « Alors, je crains que nous n'arrivions trop tard. Que la volonté du Seigneur soit faite !» Avec son habituelle réserve d'énergie, il ajouta « Venez, s'il n'y a pas d'accès pour entrer, nous devons en créer un. C'est maintenant une course contre la montre. » Nous allâmes derrière la maison où se trouvait une fenêtre de la cuisine. Le professeur prit une petite scie chirurgicale de sa mallette et, me la tendant, il me désigna les barreaux qui protégeaient la vitre. Je m'y attaquai sans attendre, et très vite, j'eus découpé 3 d'entre eux. Avec un long couteau fin, nous parvîmes à faire jouer le mécanisme de la fenêtre, et nous l'ouvrîmes. J'aidai le professeur à se glisser à l'intérieur, puis je le suivis. Il n'y avait personne, ni dans la cuisine, ni dans le quartier des domestiques qui se trouvait tout à côté. Nous essayâmes toutes les pièces tandis que nous progressions, et dans la salle à manger, éclairée faiblement par des rayons de lumière filtrant des volets, nous trouvâmes 4 femmes de chambre gisant sur le sol. Il était inutile de vérifier leurs fonctions vitales, car leur respiration stertoreuse et l'odeur âcre du laudanum dans la pièce ne laissaient aucun doute sur leur état. Van Helsing et moi échangeâmes un regard, et tandis que nous nous éloignions, il dit « Nous pourrons nous en occuper plus tard. » Puis nous grimpâmes jusqu'à la chambre de Lucie. Nous nous arrêtâmes un instant à la porte pour tendre l'oreille, mais aucun bruit ne se faisait entendre. Avec des visages livides et des mains tremblantes, nous ouvrîmes la porte doucement et pénétrâmes dans la pièce. Comment décrire le tableau qui s'offrait à nos yeux ? Sur le lit gisaient 2 femmes, Lucie et sa mère. Celle-ci reposait du côté le plus éloigné de nous et était recouverte d'un drap dont le bord s'était envolé avec le courant d'air de la fenêtre cassée, dévoilant son visage livide et tiré qui conservait une expression de terreur. À ses côtés reposait Lucie, le visage blême aussi et les traits encore plus tirés. Les fleurs qui étaient censées se trouver à son cou, nous les trouvâmes sur la poitrine de sa mère, et sa gorge nue, exhibant les 2 petits points rouges que nous avions déjà remarqués, paraissait horriblement blanche et mutilée. Sans un mot, le professeur se pencha au-dessus du lit, sa tête frôlant la poitrine de cette pauvre Lucie. Puis il fit un petit mouvement de tête comme s'il écoutait quelque chose, et, sautant sur ses pieds, il cria « Il n'est pas encore trop tard! Vite, vite, amenez le brandy !» Je m'élançai en bas pour m'emparer du brandy, en prenant bien garde de le renifler et de le goûter, de peur qu'il ne soit lui aussi drogué comme la carafe de sherry que j'avais trouvée sur la table. Les servantes respiraient toujours, mais de manière plus agitée, et je pensais que le narcotique était en train de se dissiper. Je ne restai pas pour m'en assurer, mais revins à Van Helsing sans tarder. Il versa du brandy, comme il l'avait déjà fait en une autre occasion, sur ses lèvres et ses gencives, ainsi que sur ses poignets et la paume de ses mains. Il me dit « Je puis faire cela, et c'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment. » Allez réveiller ses servantes. Giflez-les sur le visage avec une serviette mouillée et frappez fort. Qu'elles attisent le feu et préparent un bain chaud. Cette pauvre âme est presque aussi froide que le corps à côté d'elle. Elle a besoin d'être réchauffée avant toute autre chose. Je m'exécutai aussitôt et rencontrai peu de difficultés à réveiller 3 des 4 femmes. La dernière était une toute jeune fille, et la drogue l'avait manifestement affectée plus fortement. Aussi, je la laissai dormir sur le sofa. Les autres reprirent lentement leurs esprits, mais quand le souvenir leur revint, elles se mirent à sangloter et à crier comme des hystériques. Je me montrai très ferme avec elles, et ne leur laissai pas le loisir de parler. Je leur dis qu'il était bien suffisant d'avoir perdu une vie, et que si elles tardaient trop, elles seraient alors responsables de la mort de Miss Lucie. Alors, pleurant et reniflant, elles se remirent au travail, en tenue de nuit, et préparèrent le feu et l'eau. Fort heureusement, les feux de la cuisine ne s'étaient pas éteints, et on ne manquait pas d'eau chaude. Nous préparâmes un bain et portâmes Lucie telle qu'elle était pour la plonger à l'intérieur. Comme nous étions occupés à frotter ses membres, on frappa à la porte. L'une des servantes, dépêchée pour aller chercher de nouveaux vêtements, en profita pour ouvrir. Puis elle revint et nous dit en murmurant qu'il y avait un gentleman porteur d'un message de Mr. Holmwood. Je lui demandai de dire à ce monsieur qu'il n'avait qu'à attendre, car personne ne pouvait le recevoir pour le moment. Elle alla transmettre le message, et absorbée par notre travail, j'oubliai totalement ce visiteur. Je n'ai jamais vu le professeur travailler avec une telle hâte. Je savais comme lui qu'il s'agissait d'un bras de fer contre la mort, et je le lui dis lors d'une brève pause. Il me répondit d'une manière que je ne compris pas très bien, mais avec le visage le plus sévère qui soit. Si ce n'était que cela, je m'arrêterais immédiatement et je la laisserais s'éteindre en paix, car je ne vois aucune lumière à l'horizon de sa vie. Et il se remit au travail avec, s'il est possible, un acharnement redoublé et presque frénétique. À un moment, nous nous rendîmes compte que la chaleur commençait à produire ses effets. Le battement de cœur de Lucie était un peu plus perceptible au stéthoscope, et ses poumons faisaient un mouvement visible. Le visage de Van Helsing rayonnait presque lorsque nous la sortîmes de l'eau, et l'enroulâmes dans un linge chaud pour la sécher. Il me dit « Notre première victoire, échec au roi !» Nous amenâmes Lucie dans une autre pièce qui avait été dûment préparée, et nous l'allongeâmes dans son lit, l'obligeant à avaler quelques gouttes de brandy. Je remarquai que Van Helsing nouait autour de son cou un mouchoir de soie fine. Elle était encore inconsciente, et par rapport aux dernières fois, son état ne s'était pas amélioré et avait même plutôt empiré. Van Helsing appela l'une des femmes de chambre et lui dit de rester avec elle et de ne pas la quitter des yeux jusqu'à notre retour, et ensuite il me fit signe de sortir de la chambre. « Nous devons discuter de ce qui doit être fait, » dit-il en descendant l'escalier. Dans le hall, il ouvrit la porte de la salle à manger, et nous passâmes à l'intérieur avant qu'il ne fermât la porte soigneusement derrière lui. Les volets avaient été ouverts, mais les stores étaient déjà baissés, conformément au protocole de deuil que les femmes britanniques des classes inférieures observent toujours scrupuleusement. La pièce se trouvait, par ce fait, dans la pénombre. mais ce demi-jour suffisait amplement pour ce que nous avions à faire. La dureté de Van Helsing était en quelque manière adoucie par une expression de perplexité. Manifestement, son esprit ruminait une question. Aussi, j'attendis un moment qu'il prit la parole. « Que devons-nous faire maintenant ? Vers qui ou quoi pouvons-nous nous tourner pour obtenir de l'aide ? Nous avons absolument besoin d'une nouvelle transfusion sanguine, et cela très rapidement, ou la vie de cette pauvre fille ne vaut plus rien. Vous êtes déjà épuisée, et moi aussi. Je n'ose faire confiance à ces femmes, même si elles avaient le courage de donner leur sang. Comment trouver quelqu'un qui s'ouvrira les veines pour elles ? Et avec moi, quel est le problème ? » La voix venait du sofa, et ses inflexions apportèrent à mon cœur le soulagement et la joie, car elles étaient celles de Quincey Morris. Van Helsing avait sursauté, agressif, quand il avait d'abord entendu la voix. Mais son visage s'adoucit, et une lueur joyeuse apparut dans ses yeux quand il cria « Quincey Morris !» et il se rua vers lui, les bras ouverts. « Qu'est-ce qui t'amène ici ? » demandai-je en lui serrant la main. « Je dirais que c'est Hart. » Il me tendit un télégramme. « Aucune nouvelle de Seward depuis 3 jours. Suis terriblement inquiet. Ne peux quitter mon père, toujours dans le même état. Envoie-moi un mot pour m'informer de la santé de Lucie. Ne tarde pas, Holmwood. » J'ai comme l'impression que je suis arrivé à point nommé. Vous savez que vous n'avez qu'à me dire quoi faire, et je le ferai. » Van Helsing fit un pas en avant, prit sa main, le regarda droit dans les yeux et dit « Le sang d'un brave, c'est la meilleure chose sur cette terre quand une femme est en danger. Vous êtes un homme, pas de doute là-dessus. Eh bien, le démon peut bien déployer tous ses artifices contre nous, mais Dieu nous envoie des hommes quand nous en avons besoin. » Une fois encore, il procéda à cette effroyable opération. Je n'ai pas le cœur d'en restituer ici tous les détails. Lucie avait eu un choc horrible qui l'avait davantage ébranlée que les dernières fois. En effet, bien qu'on remplisse ses veines d'un flot de sang, son corps ne répondit pas aussi bien au traitement que les fois précédentes. Sa lutte pour revenir à la vie était une chose effrayante à voir comme à entendre. Pour finir, on vit une amélioration au niveau de son cœur et de ses poumons. Et Van Helsing lui fit une injection sous-cutanée de morphine, comme auparavant, qui eut l'effet attendu. Son coma se mua en un profond sommeil. Le professeur la veilla tandis que je me rendais en bas avec Quincey Morris, et envoyais une servante payer l'un des chauffeurs qui attendait toujours à la grille. Je laissai Quincey se reposer après avoir bu un verre de vin, et je demandai à la cuisinière de préparer un bon petit déjeuner. Alors, une pensée me frappa, et je revins à la pièce où se trouvait maintenant Lucie. Quand j'entrai, sans faire de bruit, je trouvai Van Helsing avec une ou deux feuilles de papier annotées dans ses mains. Il les avait manifestement lues et semblait méditer sur leur signification, assis, la main à son front. Il y avait une lueur de lugubre satisfaction sur son visage, comme celle que l'on éprouve quand un doute est enfin levé. Il me tendit le papier en disant simplement « Cela est tombé de la poitrine de Lucie quand nous l'avons porté à son bain. » Quand j'eus achevé la lecture, je restai un moment à regarder le professeur. Puis je lui demandai « Au nom de Dieu, qu'est-ce que cela signifie ? Était-elle ou est-elle encore folle ? Ou de quelle sorte d'horrible danger peut-il s'agir ?» J'étais si désorienté que je ne savais pas quoi ajouter. Van Helsing tendit la main pour reprendre le papier avec ces mots. « Ne vous inquiétez pas de cela maintenant. Oubliez cela pour l'instant. Vous saurez et comprendrez tout le moment venu, c'est-à-dire plus tard. Et maintenant, qu'est-ce donc que vous étiez venu me dire ?» Ce discours me rappela à la réalité et je recouvrai mes esprits. « Je viens vous parler du certificat de décès. » Si nous n'agissons pas de manière adéquate, il pourrait y avoir une enquête, et ce papier devrait être donné à la police. J'ose espérer qu'une telle enquête ne sera pas nécessaire, car si tel était le cas, cela tuerait probablement cette pauvre Lucie, si tant est que rien ne l'ait tuée auparavant. Je sais, vous savez, et son médecin traitant sait aussi, que Mrs. Westenra souffrait d'une maladie de cœur, et nous pouvons certifier qu'il s'agit de la cause de son décès. Remplissons tout de suite le certificat, et je le porterai moi-même à l'état civil, et je me rendrai aussi aux pompes funèbres. Parfait, mon cher John, excellemment pensé. Vraiment, Miss Lucy, dans son malheur, car elle est assaillie par de terribles ennemis, a tout de même le bonheur d'avoir des amis qui tiennent à elle. Un, deux, trois, tous s'ouvrent les veines pour elle, y compris un vieillard. Ah oui, je sais, cher John, je ne suis pas aveugle, et vous avez toute ma reconnaissance. Et maintenant, allez. Dans le hall, je rencontrai Quincey Morris, avec un télégramme pour Arthur, lui annonçant la mort de Mrs. Westenra, et lui expliquant que Lucy avait été malade, mais se trouvait mieux, et que Van Helsing et moi, nous étions avec elle. Je lui dis où j'allais, et il m'encouragea à partir, mais tandis que je sortais, il me dit « Quand vous reviendrez, Jack, pourrais-je vous dire deux mots en privé ?» J'acquiesçai pour toute réponse, et sortis. Je ne rencontrai aucune difficulté à l'état civil, et je m'entendis avec les pompes funèbres locales pour qu'on vienne dans la soirée prendre les mesures du cercueil et toutes les dispositions nécessaires. Quand je revins, Quincey m'attendait. Je lui dis que je le verrai dès que j'aurai pris des nouvelles de Lucy, et je me précipitai dans sa chambre. Elle était encore endormie, et le professeur apparemment n'avait pas bougé de sa chaise à son chevet. D'après le doigt qu'il mit sur ses lèvres, je supposais qu'il s'attendait à ce que Lucy se réveille bientôt, et ne voulait pas qu'on perturbe le cours naturel de son réveil. Alors, je rejoignis Quincey en bas, et l'emmenai dans la salle du petit déjeuner, où les rideaux n'étaient pas tirés, et qui paraissait un peu plus chaleureuse, ou du moins un peu moins sinistre que les autres pièces. Quand nous fûmes seuls, il me dit « Jack Seward, je ne veux pas mettre mon nez dans des affaires qui ne me concernent pas, mais ce n'est pas une situation ordinaire. Vous savez que j'aimais cette fille et que je voulais l'épouser, et bien que cela appartienne au passé, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour elle malgré tout. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Le Hollandais, et c'est un grand homme, je m'en rends bien compte, a dit au moment où vous êtes tous deux entrés dans la pièce que vous deviez procéder à une nouvelle transfusion sanguine, et que vous étiez tous les deux épuisés. Je sais bien que vous autres, les hommes de l'art, vous vous consultez en privé et que personne n'est en droit de connaître le sujet de vos conciliabules. Mais cela n'est pas ordinaire, et quoi que ce soit, je crois que j'ai accompli ma part du devoir, n'est-ce pas ? Tout à fait, dis-je. Et il continua. J'en ai conclu que vous et Van Helsing aviez tous les deux déjà fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Est-ce que je me trompe ? Vous ne vous trompez pas. Et je suis sûr que Art n'est pas en reste. Quand je l'ai vu il y a 4 jours à sa demeure, il avait un air bizarre. Je n'ai jamais vu d'être vivant dépérir aussi rapidement depuis le temps où j'étais dans la Pampa, quand une jument que j'aimais particulièrement est morte en une seule nuit. Une de ces grosses chauves-souris qu'on appelle vampires s'était attaquée à elle cette nuit-là, ouvrant les veines de sa gorge. Il n'y avait plus assez de sang dans son corps pour lui permettre de se lever, et j'ai dû lui tirer une balle entre les deux yeux pour l'achever. Jack, si vous pouvez me le dire sans trahir un secret, Arthur a été le premier à donner son sang, n'est-ce pas ? Tandis qu'il parlait, le pauvre garçon paraissait terriblement inquiet. Il était à la torture, suspendu au sort de celle qu'il aimait, et sa totale ignorance du mystère qui l'environnait ne faisait qu'accroître sa douleur. Son cœur saignait, et il lui fallut toute sa bravoure virile, et il en était royalement pourvu, pour ne pas craquer. Je marquai une pause avant de répondre, car si je ne souhaitais pas trahir les secrets que le professeur voulait garder, en même temps il en savait déjà tellement et en avait tellement deviné qu'il n'y avait aucune raison de ne pas lui répondre. Aussi, je lui répondis à nouveau cette même phrase « Vous ne vous trompez pas. » Et depuis quand tout ceci dure-t-il ? Environ 10 jours. 10 jours ! Et dans ce laps de temps, Jack Seward, cette charmante créature que nous aimons tous, a reçu le sang de 4 hommes forts. Il n'y a pas assez de place dans son corps pour en contenir autant. Alors, se rapprochant de moi, il parla dans un murmure pressant. « Qu'est-ce qui lui a pris tout ce sang ?» Je secouai la tête. C'est bien là le point crucial, dis-je. Van Helsing tourne cette question de manière frénétique, et quant à moi, j'arrive à court d'idées. Je ne suis même pas capable de hasarder une hypothèse. Il y a eu une série de circonstances malencontreuses qui ont perturbé le traitement prévu, et notamment la surveillance de Lucie. Mais cela ne se reproduira pas. Nous allons rester ici jusqu'à ce que tout aille bien ou mal. Quincey leva la main. « Comptez-moi dans vos rangs, dit-il. Vous et le Hollandais, dites-moi ce qu'il y a à faire et je le ferai. » Quand elle s'éveilla, tard dans l'après-midi, Lucie eut pour premier mouvement de tâter sa poitrine, et à ma grande surprise, elle en tira le papier que Van Helsing m'avait donné à lire. Le prudent professeur l'avait replacé là d'où il venait, de peur qu'elle ne s'alarmât de son absence à son réveil. Ses yeux se posèrent ensuite sur Van Helsing et sur moi, et s'illuminèrent. Puis elle regarda la pièce autour d'elle, et, reconnaissant l'endroit, elle trembla. Elle eut un hurlement et cacha son visage livide dans ses pauvres mains amaigries. Nous comprîmes tous deux ce que cela voulait dire. Elle avait pris une pleine conscience de la mort de sa mère. Aussi, nous essayâmes, comme nous le pûmes, de la réconforter. Notre sympathie l'apaisa quelque peu, mais ses pensées et son humeur restaient sombres. Et elle sanglota silencieusement et doucement pendant un très long moment. Nous lui dîmes que l'un d'entre nous, au moins, resterait dorénavant avec elle, sans interruption, et cela parut la rasséréner. Vers le moment du crépuscule, elle s'assoupit, et à cet instant, une chose vraiment curieuse se produisit. Bien que profondément endormie, elle arracha le papier de sa poitrine et le déchira en deux. Van Helsing s'approcha et lui retira les morceaux. Malgré cela, elle continua son geste de déchirer, comme si la chose à déchirer était toujours entre ses mains. Finalement, elle leva les mains et les ouvrit, comme si elle dispersait les fragments de papier. Van Helsing parut surpris et il fronça pensivement les sourcils. Mais il ne dit rien.
19 septembre.
Toute la nuit dernière, elle dormit par à-coups, toujours effrayée de s'endormir et toujours plus faible en s'éveillant. Le professeur et moi nous relayâmes pour la veiller et nous ne la laissâmes pas un seul instant sans surveillance. Quincey Morris ne nous dit rien sur ses intentions, mais je savais que toute la nuit, il faisait des rondes et encore des rondes autour de la maison. Quand le jour se leva, sa lumière pénétrante montra les ravages subis par Lucie, qui n'avait plus aucune force. Elle était à peine capable de tourner la tête, et le peu de nourriture qu'elle put avaler ne parut pas du tout lui faire de bien. Par moments, elle dormait, et aussi bien Van Helsing que moi, nous remarquâmes la différence qui s'opérait en elle entre les moments de veille et de sommeil. Endormie, elle paraissait plus forte, bien que hagarde, et sa respiration était plus paisible. Sa bouche ouverte montrait ses gencives pâles qui s'étaient comme rétractées, faisant paraître ses dents véritablement plus longues et plus pointues que d'ordinaire. Quand elle s'éveillait, la douceur de ses yeux changeait évidemment son expression, et elle était à nouveau reconnaissable, même si elle n'était qu'une version mourante d'elle-même. Dans l'après-midi, elle demanda Arthur, et nous lui télégraphiâmes. Quincey sortit pour aller l'accueillir à la gare. Quand il arriva, il était presque 6 heures, et le soleil, plein et chaud, se couchait, illuminant de rouge les joues pâles de Lucie à travers la fenêtre. Quand il la vit, Arthur fut étranglé d'émotion, et aucun d'entre nous ne put articuler un mot. Dans les heures qui venaient de s'écouler, les phases de sommeil, ou plutôt de cet état comateux qui lui ressemblait, était devenue de plus en plus fréquente, si bien que les rares moments où la conversation était possible devenaient de plus en plus courts. La présence d'Arthur, cependant, parut agir comme un stimulant. Elle se reprit un peu et lui parla plus clairement qu'elle ne l'avait fait depuis notre arrivée. lui aussi reprit contenance et parla aussi chaleureusement qu'il le put, si bien que tout se déroula le mieux possible. Il est maintenant près d'une heure du matin, et Arthur et Van Helsing sont assis à son chevet. Je dois les relayer dans un quart d'heure, et j'enregistre ceci sur le phonographe de Lucie. Jusqu'à 6 heures, ils essaieront de se reposer. Je crains que demain ne s'achève notre garde, car le choc qu'elle a subi est trop grand. La pauvre enfant ne s'en remet pas. Que Dieu nous protège tous. Lettre de Mina Harker à Lucy Westenra. Nom décacheté par sa destinataire. 17 septembre.
Ma chère Lucy, cela fait une éternité que je n'ai pas reçu de tes nouvelles, ou du moins depuis que je t'ai écrit la dernière fois. Tu me pardonneras, je le sais, toutes mes fautes, quand tu sauras tout ce qui m'est arrivé. Eh bien, j'ai ramené mon mari sain et sauf, et à notre arrivée à Exeter, il y avait un attelage qui nous attendait, et à l'intérieur, malgré son attaque de goutte, Mr. Hawkins. Il nous conduisit à sa propre maison, où il avait préparé pour nous des chambres coquettes et confortables, et nous dînâmes ensemble. Après le dîner, Mr. Hawkins dit « Mes chers amis, je veux boire à votre santé et à votre prospérité. Que toutes les bénédictions vous soient accordées à tous les deux. Je vous connais tous les deux depuis l'enfance, et je vous ai vu grandir avec un sentiment d'amour et de fierté. Aujourd'hui, j'aimerais que vous partagiez ma maison. Je ne laisse derrière moi aucune femme, aucun enfant, car tous sont partis, et dans mon testament je vous lègue tout ce que je possède. Je pleurais, ma chère Lucie, tandis que Jonathan serrait les mains du vieil homme. Notre soirée fut vraiment très heureuse. Alors nous voici installés dans cette belle vieille demeure, et depuis ma chambre et le salon, je peux voir les grands ormes du jardin de la cathédrale, leurs larges troncs noirs tranchant sur le jaune vieilli des pierres, et je peux entendre les corbeaux dans les hauteurs, croasser, discuter et murmurer toute la journée, à la manière des corbeaux et des humains. Je suis occupée, comme tu peux t'en douter, à arranger nos affaires et à tenir la maison. Jonathan et Mr. Hawkins travaillent toute la journée, car maintenant que Jonathan est son associé, Mr. Hawkins veut lui transmettre toutes les informations relatives aux clients. Comment va ta chère mère ? J'aimerais pouvoir m'échapper en ville pour un jour ou deux, afin de te voir, ma chère, mais je n'ose pas partir encore, avec tant de choses qui reposent sur mes épaules, et Jonathan a encore besoin qu'on veille sur lui. Il commence à reprendre du poids, mais il a été terriblement affaibli par sa longue maladie. Encore maintenant, il lui arrive de se réveiller en sursaut, tout tremblant, jusqu'à ce que j'arrive à lui faire retrouver son calme. Cependant, Dieu merci, ces crises semblent s'espacer à mesure que les jours passent, et je suis sûre qu'un jour elles disparaîtront tout à fait. Et maintenant que je t'ai donné mes nouvelles, laisse-moi te demander des tiennes. Quand dois-tu te marier? Et où? Qui doit officier à la cérémonie? Quelle robe vas-tu porter? Et cela doit-il être un mariage privé ou public? Dis-moi tout, ma chère. Raconte-moi tous les détails, car tout ce qui t'intéresse est important pour moi. Jonathan me dit de t'envoyer ses salutations respectueuses, mais je crois que cela ne convient pas pour un jeune associé de l'importante firme Hawkins et Harker. Et donc, comme tu m'aimes, qu'il m'aime, et que je t'aime, sur tous les modes et à tous les temps, je t'envoie plutôt simplement ses amitiés. Au revoir, ma chère Lucie. Que Dieu te bénisse. Bien à toi. Mina Harker. Rapport de Patrick Hennessey, docteur en médecine, membre du Collège royal de chirurgie, etc., etc., à John Seward, docteur en médecine. 20 septembre.
Mon cher sœur, conformément à vos volontés, voici un état de toutes les affaires que vous avez bien voulu laisser à ma charge. Concernant le patient Renfield, il y a beaucoup à dire. Il a eu une nouvelle crise qui aurait pu avoir de terribles conséquences, mais qui, bien heureusement, n'a finalement amené aucun résultat fâcheux. Cet après-midi, deux hommes conduisant un chariot sont venus à la maison abandonnée sur le terrain qui jouxte le nôtre, la maison vers laquelle, vous vous en souvenez, le patient s'est déjà enfui deux fois. Les deux hommes s'arrêtèrent pour demander leur chemin à notre portier, car ils n'étaient pas d'ici. Je regardais moi-même à la fenêtre de mon bureau à ce moment, car je fumais mon cigare après le repas, et je vis l'un d'eux qui montait vers la maison. Lorsqu'il passa devant la fenêtre de Renfield, le patient commença à l'insulter et à le traiter de tous les noms qui lui venaient à l'esprit. L'autre, qui semblait être un brave homme, se contenta de lui répondre « Ferme-la, espèce de miteux !» sur quoi Renfield l'accusa de l'avoir volé, de vouloir le tuer, et lui dit qu'il ferait tout pour l'arrêter, même s'il devait pour cela se balancer au bout d'une corde. J'ouvris la fenêtre et fis signe à l'homme de ne pas faire attention à lui. Alors, après avoir observé attentivement autour de lui, il comprit dans quel genre d'endroit il se trouvait, et il me dit « Dieu vous garde, sœur, je ferai pas attention à ce qu'on pourrait me dire dans une maison de fous. Je vous plains, vous et votre patron, de devoir vivre avec ces bêtes-là. » Puis il s'enquit poliment de son chemin, et je lui indiquai où trouver la grille qui permettait d'entrer dans la propriété abandonnée. Il s'éloigna, suivi par les menaces et les malédictions de Renfield. Je descendis pour voir si je pouvais comprendre les raisons de cette colère. En effet, il se conduit généralement en homme bien élevé, et si l'on accepte ses accès de violence, rien de tel n'était jamais arrivé. À mon grand étonnement, je le trouvais parfaitement calme et même de manière très agréable. J'essayai de l'amener à parler de l'incident, mais il me demanda platement de quoi je voulais parler, ce qui me convainquit qu'il ignorait tout de cette histoire. J'ai le regret de dire, toutefois, qu'il ne s'agissait là que d'une nouvelle manifestation de sa ruse. En effet, moins d'une demi-heure plus tard, j'entendais à nouveau parler de lui. Cette fois, il s'était échappé par la fenêtre de sa chambre et dévalait l'allée en courant. J'appelai les surveillants et nous nous lançâmes à sa poursuite. Je craignais qu'il ne fasse quelque nouvelle bêtise. Ma peur se trouva justifiée quand je vis le même chariot redescendre la route, chargé maintenant de grandes caisses de bois. Les hommes s'épongeaient le front et leur visage était rouge, comme après un intense exercice physique. Avant que je ne puisse rejoindre Renfield, il se précipita sur eux et, tirant l'un des hommes hors du chariot, commença à lui frapper la tête contre le sol. Si je ne m'étais pas saisi de lui à ce moment, je crois bien qu'il l'aurait tué sur le champ. Le second homme sauta à terre et le frappa à la tête à l'aide du manche de son grand fouet. C'était un coup terrible, mais Renfield ne sembla même pas s'en rendre compte. Au contraire, il l'empoigna à son tour et se mit à se battre avec nous trois en même temps, nous secouant dans tous les sens comme si nous étions des chatons. Vous savez que je ne suis pas un gringalet, et les deux autres étaient aussi des hommes robustes. Au début, il se battit sans rien dire, mais tandis que nous commencions à le maîtriser et que les surveillants lui enfilaient une camisole de force, il se mit à crier « Je déjouerai leur plan! Ils ne peuvent pas me voler! Ils ne peuvent pas m'assassiner à petit feu! Je me battrai pour mon seigneur et maître !» et autres divagations incohérentes. Ce fut avec de considérables difficultés qu'ils parvinrent à le ramener à l'institut et à l'enfermer dans la chambre capitonnée. L'un des surveillants, Hardy, eut un doigt démis. Toutefois, je le lui remis en place et il se porte maintenant très bien. Les deux transporteurs nous menacèrent d'abord vivement de porter l'affaire devant les tribunaux et de faire s'abattre sur nous toutes les sanctions imaginables. Toutefois, ces menaces étaient tempérées par le fait qu'ils n'étaient pas fiers d'avoir été dominés par un pauvre fou. Ils dirent que s'ils n'avaient pas épuisé toutes leurs forces à transporter de lourdes caisses dans le chariot, ils auraient rapidement eu raison de lui. Ils donnèrent une autre raison à leur défaite. La soif extraordinaire qu'ils éprouvaient après leur travail dans la poussière et l'absence de tout débit de boisson aux environs. Je compris parfaitement cette allusion et, après un bon verre de grog, ou plutôt deux, et un souverain en poche, ils oublièrent vite l'attaque et jurèrent même qu'ils rencontreraient volontiers à nouveau un fou plus dangereux encore si cela leur valait le plaisir de faire la connaissance d'un sacré chic type. Comme votre correspondant. Je pris leur nom et adresse au cas où. Les voici. Jack Smollett de Duddings Rent, King George's Road, Great Walworth, et Thomas Snelling, Peter Farley's Row, Git Court, Bethnal Green. Ce sont deux employés de Harris et Fils, société de transport de marchandises, Orange Master's Yard, Soho. Je continuerai à vous rapporter tout ce qui se passera ici, et qui présentera un intérêt, et je vous télégraphierai immédiatement si c'est nécessaire. Veuillez me croire, cher monsieur, votre fidèle, Patrick Hensy. Lettre de Mina Harker à Lucy Westenra. Nom décacheté par la destinataire. 18 septembre.
Ma très chère Lucy, une vague de tristesse est tombée sur nous. Mr. Hawkins est mort, très soudainement. Certains penseront peut-être que cela n'est pas triste pour nous, mais nous nous étions tellement attachés à lui que nous avons l'impression de perdre un père. Je n'ai jamais connu de père ni de mère, aussi la mort du cher homme est un grand choc pour moi. Jonathan est très perturbé. Ce n'est pas seulement qu'il éprouve du chagrin, un chagrin profond, parce que le cher vieillard s'était montré amical avec lui pendant toute sa vie, et à la fin l'avait traité comme son propre fils, et lui avait laissé un bien qui, pour nos origines modestes, représente une fortune inimaginable. Jonathan ressent ce deuil aussi d'une autre manière. Il dit que les responsabilités que tout cela lui fait endosser le rendent nerveux. Il commence à douter de lui-même. J'essaie de le réconforter, et ma confiance en lui l'aide à retrouver un peu de confiance en lui-même. Mais c'est là la plus grave conséquence de ce choc terrible dont il a fait l'expérience. Oh, quelle pitié qu'une nature douce, simple, noble et forte comme la sienne, une nature qui lui a permis, avec l'aide de notre cher ami, de s'élever en quelques années de la condition de clerc à celle d'avoué, soit à ce point affaiblie que l'essentiel de ses forces est disparu. Pardonne-moi, ma chère, d'assombrir ton bonheur avec mes inquiétudes personnelles, mais ma chère Lucie, je dois en parler à quelqu'un, car l'effort pour conserver une apparence courageuse et chaleureuse me coûte beaucoup, et je n'ai ici personne à qui me confier. Je redoute de venir à Londres, ce que nous devons faire après-demain, car le pauvre Mr. Hawkins a stipulé dans son testament qu'il souhaitait être enterré dans le caveau de son père. Comme il n'a plus aucun parent, Jonathan devra mener le cortège. J'essaierai de trouver un moment pour te voir, ma très chère, même pour quelques minutes. Excuse-moi de te troubler ainsi. Bien affectueusement, Mina Harker. Journal du docteur Seward, 20 septembre.
Seule l'habitude et la détermination peuvent me permettre d'enregistrer quelque chose ce soir. Je suis si malheureux, si abattu, si fatigué du monde et de tout ce qu'il contient, y compris de la vie elle-même, qu'il me serait parfaitement indifférent à cette heure d'être frôlé par les ailes de l'ange de la mort. Et ses ailes sinistres, il les a beaucoup agitées ces derniers temps. La mère de Lucie, le père d'Arthur, et maintenant... Mais je ne dois pas sauter d'étape et poursuivre ma narration. Je relevais dûment Van Helsing dans sa surveillance de Lucie. Nous voulions qu'Arthur aille également se reposer, mais il refusa d'abord. Ce ne fut que lorsque je lui dis que nous aurions besoin de son aide pendant la journée et que nous ne devions pas tous nous écrouler de fatigue, ce dont Lucie pourrait avoir à souffrir, qu'il accepta d'y aller. Van Helsing se montra très gentil avec lui. « Venez, mon enfant, dit-il, venez avec moi. Vous êtes malade et faible, et vous avez eu à supporter une grande douleur mentale. » Sans compter ce prélèvement dans vos forces vives que nous avons dû opérer. Vous ne devez pas rester seul, car la solitude est pleine de peur et d'alarmes. Venez au salon où il y a un bon feu et deux sofas. Vous prendrez l'un et moi l'autre, et notre sympathie nous apportera du réconfort, même si nous ne parlons pas, et même si nous dormons. Arthur s'en alla avec lui, jetant un dernier regard désespéré sur le visage de Lucie, qui reposait sur son oreiller presque plus blanc que le drap. Elle reposait parfaitement immobile, et je regardais attentivement autour de moi pour vérifier que tout était comme il le fallait. Je voyais que le changement de pièce n'avait rien retranché à la détermination du professeur à faire usage de l'ail. Les bords de la fenêtre en étaient garnis, et autour du cou de Lucie, par-dessus le mouchoir de soie fine que Van Helsing lui avait fait garder, se trouvait une grosse couronne de ces mêmes fleurs odorantes. Lucie respirait de manière quelque peu stertoreuse, et son visage était au plus mal, parce que sa bouche ouverte montrait ses gencives blanches. Ses dents, dans la lumière crépusculaire et incertaine, semblaient encore plus longues et plus acérées que le matin, et tout particulièrement ses canines, qui paraissaient encore plus allongées par un méchant jeu de lumière. Je m'assis auprès d'elle, et elle s'agita dans son sommeil. Au même instant, me parvint le bruit sourd de quelque chose bruissant ou se cognant contre la fenêtre. Je m'y rendis sans faire de bruit et soulevai le rideau par un coin. C'était la pleine lune et je pus voir que le bruit était causé par une grande chauve-souris qui tournoyait, sans doute attirée par la lumière, même si celle-ci était faible, et qui, de loin en loin, tapait contre la vitre avec ses ailes. Quand je regagnai mon siège, je me rendis compte que Lucie avait légèrement bougé et avait arraché les fleurs d'ail de son cou. Je les replaçai aussi bien que je pus et m'assis auprès d'elle. Elle se réveilla à cet instant et je lui donnai à manger comme Van Helsing me l'avait prescrit. Elle ne mangea que peu et encore avec langueur. L'instinct de survie qui avait accompagné sa lutte lors de toute sa maladie semblait l'avoir abandonnée. Une chose me frappa. Au moment où la conscience lui revint, elle pressa les fleurs d'ail contre elle. Il était vraiment très étrange que, lorsqu'elle plongeait dans son état léthargique, avec sa respiration stertoreuse, elle repoussa les fleurs, alors que lorsqu'elle s'éveillait, elle les serra contre elle. Il était impossible que je fisse erreur là-dessus, car dans les longues heures qui suivirent, il lui arriva à de nombreuses reprises de s'endormir et de s'éveiller, et elle répéta les mêmes gestes à chaque fois. À 6 heures, Van Helsing vint pour la relève. Arthur avait fini par s'assoupir, et il l'avait miséricordieusement laissé dormir. Quand il vit le visage de Lucie, je pus entendre son inspiration sifflante, et il me dit dans un murmure impérieux « Tirez les rideaux, je veux de la lumière !» Puis il se pencha, et son visage effleurant celui de Lucie, il l'examina consciencieusement. Il retira les fleurs et souleva le mouchoir de soie de sa gorge. Et ce faisant, il sursauta, et je pus l'entendre éructer « Mein Gott !» comme s'il s'étouffait. Je me penchai également pour regarder, et un étrange frisson me parcourut. Les blessures de sa gorge avaient totalement disparu. Pendant 5 minutes entières, Van Helsing resta immobile à la fixer, avec son visage le plus dur. Enfin, il se tourna vers moi et dit calmement « Elle est en train de mourir. Cela ne sera plus long maintenant. » Cela fera une énorme différence, croyez-moi, qu'elle meure consciente ou dans son sommeil. Allez réveiller ce pauvre garçon et dites-lui de venir assister à sa fin. Il nous fait confiance et nous le lui avons promis. » J'allai dans la salle à manger et je le réveillai. Il fut un peu confus pendant un moment, mais lorsqu'il vit la lumière du jour percer à travers les volets, il pensa qu'il avait dormi trop tard et exprima son angoisse. Je l'assurai que Lucie était toujours endormie, mais je lui dis le plus gentiment possible que Van Helsing et moi-même craignions que la fin ne fût proche. Il se couvrit le visage de ses mains et tomba à genoux à côté du sofa où il resta peut-être 1 minute, le visage enfoui, priant, tandis que ses épaules étaient secouées de douleur. Je le pris par la main et l'aidai à se relever. « Venez, dis-je, mon cher ami, rassemblez tout votre courage, cela sera mieux et plus facile pour elle. » Quand nous arrivâmes dans la chambre de Lucie, je pus voir que Van Helsing avait, avec sa prévoyance habituelle, tout arrangé et mis en ordre pour que les choses aient un air convenable. Il avait même brossé les cheveux de Lucie, qui reposaient sur l'oreiller dans leurs boucles familières et lumineuses. Quand nous entrâmes, elle ouvrit les yeux et murmura doucement « Arthur, oh mon amour, je suis si heureuse que vous soyez venu !» Il s'apprêtait à l'embrasser quand Van Helsing le repoussa en arrière. « Non, murmura-t-il, pas encore. Tenez sa main, cela la réconfortera davantage. » Arthur prit sa main et s'agenouilla près de la jeune fille qui avait retrouvé tout son attrait, les lignes douces de son visage soulignant la beauté angélique de ses yeux. Petit à petit, ses yeux se fermèrent et elle s'endormit. Pendant un long moment, sa poitrine se souleva doucement, son souffle entrant et sortant comme celui d'un enfant fatigué. Alors, insensiblement, arriva l'étrange métamorphose que j'avais déjà remarquée pendant la nuit. Son souffle devint à nouveau stertoreux, la bouche s'ouvrit, et les gencives pâles, rétractées, firent apparaître les dents plus longues et plus acérées que jamais. D'une manière somnambulique, vague, inconsciente, elle ouvrit les yeux, qui étaient maintenant ternes et durs à la fois, et elle dit d'une voix câline, voluptueuse, telle que je ne l'avais jamais entendue sortir de ses lèvres. « Arthur, oh mon amour, je suis si heureuse que vous soyez venu. Embrassez-moi. » Arthur se précipita pour l'embrasser, mais à cet instant Van Helsing, qui comme moi avait été alerté par la voix, fondit sur lui, l'attrapa par le cou avec une force furieuse dont je ne l'imaginais pas capable, et le projeta presque à travers la pièce. « Je vous le défends pour votre vie, cria-t-il, pour votre âme éternelle et pour la sienne. » Et il se tint entre eux comme un lion aux abois. Arthur était si complètement pris au dépourvu qu'il ne sut pendant un moment que dire ou que faire. Et avant qu'une impulsion violente pût s'emparer de lui, il se rappela la situation et attendit silencieux. Je gardai mes yeux fixés sur Lucie, tout comme Van Helsing, et nous vîmes un spasme de rage passer comme une ombre sur son visage. Les dents acérées s'entrechoquèrent, puis ses yeux se fermèrent et elle respira lourdement. Très peu de temps après, elle ouvrit des yeux qui avaient retrouvé toute leur douceur, et sortant une pauvre main pâle et maigre, elle prit la grande main brune de Van Helsing et, l'attirant à elle, elle l'embrassa. « Mon véritable ami, dit-elle, d'une voix faible mais vibrante d'une douleur insupportable. Mon véritable ami est le sien aussi. Oh, protégez-le et donnez-moi la paix. » « Je le jure, dit-il solennellement, agenouillé près d'elle et une main levée, comme quelqu'un qui prête serment. Puis il se tourna vers Arthur et lui dit « Venez, mon enfant, prenez sa main dans la vôtre et embrassez-la sur le front une unique fois. » Leurs yeux se rencontrèrent plutôt que leurs lèvres, et c'est ainsi qu'ils se séparèrent. Les yeux de Lucie se fermèrent et Van Helsing, qui avait tout observé de près, prit le bras d'Arthur et l'écarta. « C'est fini, » dit Van Helsing. « Elle est morte. » Je pris Arthur par le bras et l'accompagnai dans la salle à manger, où il s'assit et couvrit son visage de ses mains, sanglotant d'une manière qui me fendit le cœur. Je retournai dans la chambre et je trouvai Van Helsing contemplant cette pauvre Lucie, et son visage était plus ferme que jamais. Un changement était survenu sur le corps de la jeune fille. la mort lui avait restitué une part de sa beauté, car son front et ses joues avaient retrouvé leur ligne fluide, même les lèvres avaient perdu de leur pâleur mortelle. C'était comme si le sang, qui n'était plus nécessaire pour faire battre le cœur, avait reflué pour rendre la dureté de la mort moins horrible. Nous pouvions croire qu'elle était mourante lorsqu'elle dormait et endormie lorsqu'elle est morte. Je demeurai à côté de Van Helsing et dis « Eh bien, pauvre fille, elle aura malgré tout trouvé la paix à la fin. » Il se tourna vers moi et dit avec une profonde solennité « Non, hélas, il n'en est pas ainsi. Ce n'est que le commencement. » Quand je lui demandai ce qu'il voulait dire, il se contenta de secouer la tête et répondit « Nous ne pouvons rien faire de plus pour le moment. Wait and see. »